France Inter.
Des poulets des œufs en forme de cube. Les œufs cubes, ils sont plus faciles à mettre en boîte.
CO2, mon amour.
Et les poulets sans plumes. On gagne du temps, on évite de la main d'œuvre.
Denis Chessou.
Goûte.
C'est du pétrole.
C'est exact. C'est exact. C'est... Alors maintenant, regarde. Et voilà, c'est de la viande.
Oh.
Goûte.
Ah non.
Goûte.
Ah non.
Sur France Inter.
Une petite aile, une petite cuisse, une petite dystopie, et bien peut-être de moins en moins. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Adèle Caglard à la technique aujourd'hui, Camille Blanès est notre collaboratrice, et Juliette Gou réalise l'émission. Alors, en un bon gros siècle, l'espèce humaine aura fait de cette planète unique, extraordinaire et splendide, un vaste champ d'épandage, un parking, un casino géant doublé d'une roulette russe, un océan de déchets, de plastique, on le sait, devenu quasiment ingérable. Bon, un lieu où les humains aussi se déchirent, gaspillent, accaparent sans retenue. Et cependant, c'est le renard et la fouine que ces mêmes humains appellent nuisibles. Quand même gonflés, les mecs, hein, voilà. Alors, évidemment, on peut se dire qu'à l'origine, bah, on ne savait rien. On débutait dans le métier, on était jeunes, plein d'allants, inconscients. On s'en mettait plein les poches, on se goinfrait au buffet garni sans se gêner. Mais depuis une soixantaine d'années, on sait, tout le monde sait. Alors, c'en est presque ennuyeux. Et pourtant, on va pas toujours dire que c'est de la faute des autres, du climat, du gouvernement. Non, on peut tout, mais on fait quoi? Chacun à son échelle. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? De la course à pied, on sort son chien, on roule en voiture de plus en plus grosse, on amazonise sur Internet, on voyage en groupe, en train de couillon des mers. En avion, on s'éclate, le nez dans les stories, le temps de cerveau disponible est donc bien dirigé. Alors, la Terre est à feu et à sang. On y pense, je sais, puis on s'en fiche quand même pas mal. Mais pas tous, non, loin s'en faut. Beaucoup agissent et prennent des risques, car la doxa n'a rien d'écologique en ce moment. Alors on va se poser 5 minutes. L'essence aux aguets. Là, ce chant au loin dans les bois, c'est qui? Aya Nakamura? Non, c'est une grive musicienne. Alors nous connaissons l'une médiatiquement, mais qu'est-ce que l'on sait de l'autre? C'est bientôt le début du printemps. La curiosité aidant, on va prendre le temps d'écouter, d'observer, d'apprendre, d'aimer. Pour mieux protéger. Alors, entre deux foulées, nous baisserons-nous pour ramasser cette canette au bord du chemin, lâchement abandonnée par quelques gougnafiers? Un geste simple, mais faut-il un coach pour nous conseiller? Ben oui, parce qu'il y en a partout. Ramasser, c'est bon pour l'assouplissement dorsal. Chaque geste compte s'il est multiplié. Trekking en circuit court dans les Hautes-Alpes, rando en vélo en Corrèze, vie collective en Alsace, association en Bretagne, cinéma de quartier en Occitanie. Faisons vivre nos régions, n'attendons rien des influenceurs. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes sous influence. Non, agissons nous-mêmes, c'est notre seul pouvoir et aidons aussi les associations malmenées. Et puis, désenclavons le sud du Tarn. Et regardez, Jaurès, Laurent Jalabert, Jean-Louis Etienne, tous sont des dégénérés, bien sûr, englués dans un passé tortueux, de chemins pierreux, juste dignes des carroyages moyenâgeux. Alors je sais, j'en viens, moi, du Tarn, hein, je me rajoute à la liste. Le tombeau de la famille est à Serviès, à 14 kilomètres de ce rêve de liberté et de progrès pompidolien qu'est la A69. Le temps, c'est de l'argent, 23 minutes de gagné, ça vaut bien un massacre contre nature. Faudrait voir hein, quand même qu'une nichée d'écureuils accrochée dans les arbres depuis 2 ans fasse capoter une si belle aventure. Moi, j'en rêve déjà de mon péage. Tiens, on ira si vite qu'on ne verra plus le paysage, sauf la montagne noire là au loin. Mais là, il y a un stop. Tribunal administratif. Comment ça? Aucune raison impérative d'intérêt public majeur justifiant de porter atteinte à l'environnement? Et pourtant, nous, l'État, le concessionnaire, beaucoup d'élus, on a fait le forcing. Hein. Alors, quand vous n'allez pas faire disparaître notre belle autoroute pensée comme un rêve il y a 30 ans. Vous n'allez pas nous laisser cette bande de terre qui a éventré le paysage, champs, arbres, habitations avec de l'emploi à la clé. Bon, allez, Pierre Fabre va vous donner un médicament pour faire passer le mal de tête. Alors la suite pour les conquérants du bitume du Tarn, elle se fera démocratiquement. L'État donc fera appel de la suspension du chantier. Et vous savez, donc grand contournement ouest de Strasbourg, qui ne devait pas se faire, et donc bien sûr déjà dans les têtes. Bon, alors moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon vélo et un train pour aller visiter Dame Marie-Monique Robin. Elle nous attend dans la ferme de son enfance, dans le Poitou, et on va se faire du bien.
Ça fait quelques années maintenant que je suis lentement entre la rage et l'apathie. Plutôt régulièrement pour te dire à quel point les plus grands sont en fait petits. À coups de lumière et de couleurs dans le téléviseur, on te vend Goliath en David. Si bien que je m'étonnerais pas de sentir de mes mains les parois de sa bouche à vide. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Et rien ne va depuis que les hommes ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Bien assis tout en haut de la tour de Babel. Et je me souhaite d'y mettre le feu, quitte à finir dans les flammes, autant le faire avec eux. C'est pas une question de fin, l'amour, pas la guerre. Ils ont vendu les deux, ils ont vendu les deux. Ni même de croire en un ciel moins amer. Ils ont vendu les dieux, ils ont vendu les dieux. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Et rien ne va depuis que les hommes ont mangé. Appétit, si je ris, c'est promis, vous vous noirez aussi. Si je me noie, vous vous noirez aussi. Si je me noie, vous vous noirez aussi. Moi dans les flots, vous dans votre appétit. Si je ris, c'est promis, vous vous noirez aussi. Et rien ne va depuis que les arbres ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras.
Solane, donc les ogres, une véritable révélation, elle dit exactement la même chose. Depuis que les hommes ont mangé le monde, on me l'arrache d'entre les bras. Alors, le monde selon qui ? Ben selon Marie-Monique Robin, dans sa ferme d'enfance.
La famille Robin, c'est mon nom donc, elle est paysanne depuis au moins 1630, parce que quand j'avais 14 ans, j'avais pris mon petit caddie, on sait, c'est une petite... Solex, j'étais allée à la mairie de Gourget et on n'est pas loin de la Vendée ici, donc, mais j'ai eu de la chance parce que les registres paroissiaux n'avaient pas été détruits tu vois, à la Révolution, donc tout était à la mairie et le dernier registre c'était 1620, il avait été rédigé par un curé qui s'appelait Michel Robin, donc dans la famille c'est que des paysans, il y a pas mal de prêtres aussi, et moi cette allée là, elle mène à un étang qui fait 10 hectares qui avait été creusé à la main par des moines au 12e siècle et toi, j'ai révisé le bac en marchant là, faisant le tour de l'étang. Enfin, c'est mon endroit, quoi. C'est là où j'ai mes racines. Mon activité quand j'étais petite, l'été, on partait pas trop en vacances, donc j'allais pêcher la carpe là-bas dans l'étang. J'ai ramené de belles carpes.
Nous sommes dans le Poitou, près de Parthenay, la ferme d'enfance de Marie-Monique Robin. La regarde venir à elle avec de l'émotion. Jeanne et Joël, ses parents agriculteurs, engagés, enfants de la jeunesse agricole chrétienne, furent des pionniers. Ils ont créé les premiers groupements agricoles d'exploitation en commun. Ils se sont vécus, donc paysans, avec une conscience aiguë de leur rôle nourricier, sans notion de profit dans la France d'après-guerre. Alors Marie-Monique Robin a fait son école de journalisme. Sa ligne directrice est toujours la même, les droits humains et donc l'écologie, qui en fait très vite partie. Vivre dans un environnement sain, avec de la bonne eau, de bons sols, une végétation en équilibre, devrait être donc des droits essentiels. Marie-Monique, après de nombreux documentaires, hein, reportage sera évidemment connu aussi par Le Monde selon Monsanto en 2008, Sacrée croissance, Qu'est-ce qu'on attend, La fabrique des pandémies, et tout à fait récemment, et ça nous a donné un très bon livre chez Arte Éditions, Vive les microbes, comment les microbiomes protègent la santé planétaire. Alors on va la redécouvrir, et tout à l'heure aussi avec son frère, hein, passé en bio, au cœur de son enfance, au bord de l'étang dont elle connaît tous les murmures, c'est là que sa sensibilité naturaliste est née.
Quand mon père décide de reprendre la ferme de son père, à un moment il avait pensé être photographe, mon père, c'est un catho, il y a la JAC, il y a eu Vatican II, 1962, eh ben, il se dit, je vais reprendre cette ferme parce qu'il faut nourrir le monde. Il en était persuadé, quoi. Hein. Ouais. Au début, dans les années 60, moi je suis né en 1960, eh ben, ce gars s'est lancé dans l'agriculture productiviste. Parce qu'il se disait, c'est pour nourrir le monde, enfin, etc. Ouais, ouais. Donc, voilà, ils ont participé à ce mouvement, chose dont mon père... à la fin de sa vie, mes parents sont décédés il n'y a pas longtemps, mon père en était désolé, parce qu'il a découvert tout ce que ça voulait dire, hein, pour la biodiversité, pour la santé des paysans, enfin, etc. Voilà, et quand j'allais au lycée, tu sais, tu remplis en début d'année, là, profession du père et de la mère, mon père avait dit, on met exploitant agricole. Ce qu'il regrettait beaucoup à la fin de sa vie, parce qu'il s'est dit, non, c'est paysan, on n'aurait jamais dû renoncer à ce terme. Et ça, malheureusement... C'est ce qui s'est passé partout ici. Hein.
C'est-à-dire celui qui habite le pays déjà.
Voilà, le paysan, c'est celui qui habite le pays, qui fait vivre, qui protège le paysage aussi, qui protège la vie dans ses terres, la vie des sols, les oiseaux. Mon père qui était un grand connaisseur des oiseaux, il regrettait beaucoup parce qu'il disait, je me souviens qu'à l'automne, il y a un fil électrique là, il y avait des milliers et milliers d'hirondelles qui venaient avant de partir vers l'Afrique.
Oh là.
Et ben c'est fini.
Ben non.
C'est fini. Tu vois, c'est beau, hein, l'étang est magnifique.
Ouais. Ah, que c'est bien là. Et en fait, le côté, je ne vais pas dire rebelle, parce que ça fait partie de la bête, hein, chez Marie-Monique Robin, mais toute cette culture de se dire, on ne peut pas se satisfaire de ce monde tel qu'il est. Et donc, je vais aller témoigner, moi, après, comme journaliste, avec Le Monde selon Monsanto, Sacrée croissance, avec aussi Qu'est-ce qu'on attend ? Ouais. Et en fait, ce Qu'est-ce qu'on attend, on peut le dire encore aujourd'hui, quoi.
Ah, bien sûr, bien sûr. Le côté rebelle, je pense que ça vient aussi... que j'ai toujours assumé. Moi, j'ai toujours dit que nous, parce que je suis journaliste, moi, j'ai une carte de presse, puis j'y tiens beaucoup, depuis 44 ans maintenant. Le rôle des journalistes, c'est qu'on devrait tous être des lanceurs d'alerte, en fait. On est là pour dénoncer les contre-vérités, les mensonges institutionnels, etc. Mais tout ce côté-là, je pense que ça vient de l'éducation en partie de mes parents, qui m'ont appris à relever la tête, parce que être fils de paysan dans les années 70, quand on allait au collège, moi j'étais une très bonne élève, excuse-moi de dire ça, mais c'était ça, eh bien, on était considérés comme les cutéreux. Ouais. Et donc ça, mes parents étant des militants agricoles, me disaient, mais non, c'est le plus beau métier du monde, le métier de paysan, parce que justement, sans ce métier, aucun autre ne peut exister, parce qu'on a tous besoin de manger, quel que soit le travail qu'on fait. Donc, et qui c'est qui nourrit les autres ? Eh ben, c'est les paysans. Voilà. Et la deuxième chose, c'est comme ils étaient très engagés dans cette action catholique, c'était l'idée qu'on pouvait changer le monde. Mm-hmm. Moi, j'ai choisi ce métier. Je dis toujours, ça fait certainement sourire toujours aujourd'hui, mais moi, j'ai choisi le métier de journaliste pour changer le monde. Sauf que quand je commence dans les années 1980, j'imagine que je vais faire des films... des livres aussi qui vont avoir un impact pour dans 200, 300 ans. J'imagine pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est même assez déprimant finalement de se dire tout est extrêmement urgent. Le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité et puis aussi le double fardeau sanitaire qui pèse sur tout le monde. Autour de cette ferme-là, il y a des paysans qui sont morts de la maladie de Charcot à cause des pesticides, un cousin de mon père qui a eu une maladie de Parkinson à cause des pesticides. Enfin, vous voyez, ça a été un impact très important, hein, l'utilisation des pesticides, comme partout. Hein.
Et d'où le monde.
C'est un peu déprimant parce qu'on se rend compte que l'urgence est de plus en plus importante, l'urgence de prendre des mesures pour sortir de cette spirale infernale là, qui nous mène dans le mur. Et non seulement on ne les prend pas, mais on va même... en marche arrière. Wow. C'est les chaînes. Alors, malheureusement, avec ce modèle agro-industriel, ils en ont quand même beaucoup, beaucoup coupé des chaînes, mais tu vois là.
Là, il vous ouvre tous ses bras, là, Marie-Monique.
Il est beau, hein. Ça m'émeut beaucoup. Un arbre comme ça, ça me. Ça me touche. Et quand on est à un moment, on doute de ce qu'on fait, je sais pas, enfin, on se dit ça sert plus à rien de faire des films parce que tout est en train de...
Là,
tu te dis, la réponse c'est non. On ne lâche rien parce que... Lui, il lâche rien. Là,
ah, lui, il lâche rien.
Et si on prenait l'exemple du Roundup ? C'est le nom commercial donné par Monsanto au glyphosate, un herbicide dit non sélectif ou total, parce qu'il détruit toutes les plantes.
Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre, ni l'os de Rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber.
Roundup biodégradable. La firme a été condamnée 2 fois pour publicité mensongère.
Nous avons aussi donc cette loi d'orientation agricole, hein, qui est donc sortie il n'y a pas tellement longtemps. On n'arrête pas de nous parler de souveraineté alimentaire.
Non, mais ça c'est tout le grand mythe, finalement, hein, que la France est un grand pays agricole. Effectivement, grand
pays...
C'est
pas complètement faux quand même.
Oui, grand pays exportateur. On produit beaucoup de blé qu'on exporte. Du blé, en fait, de mauvaise qualité. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle « Blé, chronique d'une mort annoncée » sur l'histoire du blé. Eh bien, pour faire du pain, on est obligé d'importer quand même du blé de très bonne qualité du Canada, alors qu'on est quand même un très grand pays producteur de blé. Donc,
les 42% de nos terres, en fait, sont faites pour exporter.
Ben oui, bien sûr. Donc, c'est ça, la balance commerciale, etc. Mais non, il y a plein de productions dans lesquelles on est déficitaire en France. Pensons à tous les élevages industriels, il y en a aussi beaucoup là, de poulets, etc. Ben, s'il n'y a pas tout soja qui arrive par le port de Brest, etc., de soja transgénique arrosé de Roundup d'ailleurs, eh bien, on ne peut pas nourrir nos animaux. On est, tout ce qui est la filière oléagineuse, on est totalement déficitaire. Donc, c'est même pas la souveraineté alimentaire, ça, c'est la sécurité alimentaire.
C'est-à-dire que souveraineté alimentaire, pour eux, c'est l'autonomie des peuples, donc à se nourrir en quantité suffisante et en qualité.
Oui, mais ça, ils veulent de plus en plus exporter, y compris, j'ai vu en Bretagne, des œufs vers la Chine, du lait, enfin, etc. Mmh. Bon, alors, si tu rentres dans un modèle comme ça, libéral, où les denrées agricoles sont soumis à la concurrence internationale. Dans ce cas-là, tu dois accepter, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, que des fraises arrivent d'Espagne, enfin, etc. Donc si tu veux pas que des produits, comme on le voit en ce moment, des produits agricoles arrivent, qu'on pourrait faire nous-mêmes, évidemment, parce que, eh bien, arrivent d'ailleurs, mais il faut accepter un autre modèle. Et le modèle, c'est la véritable souveraineté alimentaire. C'est pas la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est de faire des stocks. Et si jamais il y a une famine quelque part, on puise dans ces stocks. Ok. La souveraineté alimentaire, c'est l'autonomie des populations pour se nourrir. Dans ce cas-là, tu arrêtes, évidemment, d'exporter des poulets bas de gamme de Bretagne vers le Sénégal. C'est un sujet que je connais, j'ai fait un reportage là-dessus, qui va faire que, localement, la production de poulets...
On va flinguer la production vivrière.
Voilà, on flingue la production vivrière.
Ne faisons pas croire aux Français qu'on pourra cultiver des pommes, des poires ou des fruits sans aucun pesticide. Ça a toujours existé et ça continuera à exister parce que sinon vous ne produirez pas suffisamment de produits.
Il faut rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui totalement alternative aux pesticides.
Moi j'ai fait un film qui s'appelle « Les moissons du futur ». J'étais avec Bruno Le Maire sur un plateau de télé. Où il dit, oh oui, Madame Robin, les pesticides, c'est peut-être un problème, mais on ne peut pas nourrir le monde sans pesticides. Et moi, je dis, on ne le nourrit pas non plus avec les pesticides. Il faut quand même pas oublier qu'il y a près d'un milliard de personnes qui sont en état de malnutrition, n'est-ce pas ? Et 90%, c'est des petits paysans. Donc, on ne nourrit pas le monde malgré les milliards qui ont été investis dans les engrais chimiques, les pesticides. On ne nourrit pas le monde avec les pesticides. Malheureusement, c'est ça la vérité. Donc, c'est véritablement un autre modèle qu'il faut fonder sur l'agroécologie, des petites fermes à hauteur d'hommes et de femmes, familiales, paysannes, où on produit des aliments pour nourrir nos concitoyens.
Alors qu'on est parti pour continuer sur de l'extension, pour continuer sur de l'intensif, donc pesticides jusqu'aux oreilles.
Mais parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le modèle agro-industriel qui est largement promu par la FNSEA, le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'agrandir. Ouais. Moi, quand je suis né ici... Il y a 64 ans, il y avait 1 800 000 fermes. En 1990, je fais un film pour TF1 qui s'appelait La faillite des paysans. Il y en avait, à l'époque, 1 million. Aujourd'hui, c'est moins de 400 000. Ce qui crée dans une commune comme Gourget des rapports, pas du tout ce que moi j'ai connu, même que mon père me racontait, ou mon grand-père. Chacun attend qu'il y en a un qui disparaisse. Soit il disparaît parce qu'il a la maladie de Charcot, et tac, voilà. Ou il disparaît économiquement. Donc c'est terrible, hein, ce qui se passe dans les campagnes de ce point de vue-là. Mais le modèle, c'est que donc en fait pour t'agrandir, il faut que il y en a qui disparaissent. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la FNSEA ? Elle a géré cette disparition programmée qui continue, parce qu'on continue de dire qu'on va arriver à 1%. Vous voyez, avec,
On sera bientôt à 300 000, hein, et peut-être
oui,
encore moins.
Oui, bien sûr. Et puis là, on sait qu'il y a plein de fermes avec des agriculteurs très âgés qui n'ont pas de repreneurs. Mais ce qui est terrible, c'est que les terres, elles vont être distribuées à des grands qui vont être encore plus grands. C'est beau, ça. Déjeuner, magnifique. Alors là, ça y est, le printemps va arriver.
Ouais.
Ah, c'est magnifique. Hein.
Nos petites clochettes jaunes, nos fleurs, ça y est, elles sortent.
Oui, ça y est.
Une prévalse de printemps. Tenez, on a un étang, mais une rivière n'est pas loin. Stéphane Escher sur France Inter dans CO2 Mon Amour. Alors deux ouvrages donc signés Marie-Monique Robin viennent de sortir. Vive les microbes aux éditions de la Découverte TRT Éditions et qui nous rappelle, ça c'est assez extraordinaire, l'effet de la ferme. C'est-à-dire en fait que être exposé à la diversité microbienne, eh ben ça nous protège de beaucoup beaucoup de choses. Voilà, il y a plein de choses dedans. Et puis l'autre c'est ces animaux qui nous protègent. Alors là c'est un très beau livre avec de belles illustrations de Valentine Plessis, Rue de l'Échiquier, édition Rue de l'Échiquier. Et en fait, ça nous présente la biodiversité animale, végétale et microbienne. Tout ceci va ensemble. C'est le berceau de la santé planétaire, ces animaux qui nous protègent. Je vous ai parlé du frère de Marie-Monique Robin. Ben le voici, Jean.
Il faut d'abord savoir d'où je viens. Moi, j'ai connu une période où quand je traitais les céréales avec les pesticides, je m'arrêtais parfois avec mon tracteur parce que je voyais que sur ma rampe, il y avait une buse qui ne marchait pas. Je descendais, je la dévissais à la main et je soufflais à la bouche pour la déboucher.
Cool.
C'est ce que, parce qu'on m'avait expliqué, j'ai fait 7 années d'école d'agriculture, ouais. On m'avait expliqué que les pesticides, les fongicides, les herbicides et j'en passe,
c'était inoffensif.
C'était les médicaments des plantes.
Bien sûr.
Et c'était génial. Donc on avait plus de rendement, donc j'ai commencé comme ça, moi. Ouais. Puis un jour, et notamment parce que Marmique a fait ce travail approfondi de sensibilisation et également de sensibilisation du monde paysan, pas que de notre famille, du monde paysan en total, sure. Moi j'ai commencé à découvrir que j'avais des copains qui étaient malades, qui avaient de la génération d'au-dessus de moi, qui commençaient à faire de l'Alzheimer, du Parkinson et des cancers de prostate, et qu'au fond, les grandes institutions qui commençaient à remettre ça en cause, et dont les journalistes comme ma sœur, commençaient à se dire, mais non, c'est dangereux, on nous a cachés, on nous a pas tout dit. Et là, j'ai commencé à me dire, mais j'ai 4 enfants, moi je suis pas un gros baraquet de santé, il faut que je change. Et j'ai commencé par faire ce qu'on appelle un contrat territorial d'exploitation, 5 ans. Après, j'ai fait un MAE, mesure agro-environnementale, donc réduction progressive des intrants. Mmh. Puis après, je suis passé en bio. Et à l'heure où je vous parle, ça fait 25 ans que sur cette ferme, il n'y a pas eu un produit chimique, ni un engrais chimique. Je ne mets que du bio, que de la fumure bio, c'est-à-dire du fumier que j'achète, qui me coûte très cher d'ailleurs. Et j'achète que des semences bio. Et là, il y avait du sarrasin, par exemple, qu'on a moissonné au mois de septembre. Et je ne mets plus de produits chimiques. J'ai refait toutes mes haies d'une manière différente. On ne coupe plus les haies, on coupe juste les branches hautes. Ouais. On préserve les chais. Il y en a 250 sur la ferme.
Elles sont beaucoup plus hautes que les voisines.
Parce qu'on les garde. Et puis, on a créé le village vacances avec ma femme en 1993. Donc, on accueillait des gens. Et tous étaient sensibles à la question de... Vous avez préservé cet environnement, l'étang, les terres. Une fois même, j'ai vu un vacancier, cette petite anecdote que je vous donne. Je venais là l'étang le matin pour aller voir mes pêcheurs. En vélo avec mon chien, il y a un vacancier qui se roulait dans la terre. Il était habillé un Parisien. Ouais. Il se roulait dans la terre. Ah, j'ai dit, mais il y a un problème, je dois appeler les pompiers. Il a dit un truc qui m'a extrêmement touché. D'ailleurs, il voulait acheter du bungalow et rester ici en maison résidence, que je n'ai pas fait. Il m'a dit, je retrouve des énergies en moi que j'avais perdues en me roulant dans cette terre. Il y a quelque chose en moi ici qui se joue. Et c'est plus tard que j'ai compris ce qui se passait en fait dans la tête des gens. En fait. Quand on leur propose une façon de voir différente, eh bien,
ils acceptent.
Ils se rééquilibrent, ils se remettent bien.
Ici, j'oublie tout. J'ai l'impression de faire partie du cosmos. Je me rends compte à quel point la nature me manque.
Aujourd'hui, la ferme a été reprise, enfin, on est toujours associé, que je suis propriétaire de toutes les terres et de l'étang. Ouais. On a trouvé un garçon extraordinaire, Franck, qui sort du ministère de l'Agriculture, ingénieur, docteur, qui continue la même tradition, qui respecte les terres, la nature, les cultures, l'herbe, les associations graminées, légumineuses, qui fait très attention aux choix qu'on fait, malgré le dérèglement climatique qui nous porte préjudice actuellement. Et donc je suis content parce que je pense que dans les 40 ans qui viennent, alors que nous les Robins, on est là depuis presque 60 ans maintenant, eh bien ça va continuer. Et on va rester peut-être un petit îlot de témoignage pour dire, on est entouré d'agriculteurs là qui font de la trazine, enfin ça n'existe plus la trazine, mais d'autres produits chimiques et qui font beaucoup de cultures intensives. J'espère que la barre va résister à ça après nous, parce que moi j'arrive dans 2 ans, je suis à la retraite, je vais le passer la main. Que deviendra la terre ici, je ne sais pas encore, mais je voudrais que ça continue.
Ça, vous faites sacrément votre part, hein, comme on dit.
Donc... On a fait notre part, oui. Mais ça a eu un coût. Hein. Vous savez, il y a 3 types d'agriculture en France. Vous avez l'agriculture de gros chiffres d'affaires. Beaucoup d'hectares, beaucoup de matériel, beaucoup d'animaux, beaucoup d'intrants et de pesticides et d'engrais.
Agriculture hyper capitalistique.
Voilà, qui coûte beaucoup d'emprunts à la banque. Et il faut faire un beaucoup de chiffres d'affaires pour sortir une toute petite marge. Ceux-là, ils sont à la FNSEA en général. Après, vous avez l'agriculture exactement l'inverse. C'est petit chiffre d'affaires, mais valeur ajoutée. On transforme les produits, le lait en fromage, les plumes de nos oies en couettes. On avait 4500 oies ici. Mmh. Ma femme les transformait en couettes. On a vendu des centaines de couettes pendant des années. Du lait en fromage que j'ai fait avec mon père. On avait 200 chèvres laitières. Donc, petit chiffre d'affaires, mais transformation d'affaires. Mais c'est d'autres métiers. Il faut être non seulement agriculteur, donc producteur de matières végétales et animales, mais il faut aussi transformer, il faut aussi vendre, il faut faire du commerce, il faut faire de la com. Puis, il y a de nouveaux contrôles fiscaux. Donc, c'est compliqué, avec plusieurs emmerdes. Mais c'est super. Vous êtes au plus proche du consommateur. Et la troisième façon de faire de l'agriculture, c'est l'agriculture de pluriactivité. C'est à peu près un agriculteur sur deux. C'est-à-dire, j'ai une ferme, mais je fais à côté un autre métier parce que malheureusement, cette ferme ne me permet pas de vivre à plein temps, ce qui n'est pas normal. Hein. Mais c'est le cas. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc fait de la transformation à la ferme, avec de l'agrotourisme, du lait en fromage, des couettes avec ma femme, avec nos plumes d'oie. Et j'ai été prof pendant 14 ans en maison familiale rurale. Je formais des jeunes qui eux-mêmes allaient devenir agriculteurs. Sauf que cette même école dans laquelle j'ai travaillé 14 ans m'a elle-même reçu comme étudiant. quand j'étais jeune.
D'accord.
Et qui m'a enseigné l'agriculture productiviste.
Ouais.
Et moi, j'arrivais dans mes classes de première et terminale.
Et vous cassiez le modèle de base.
Et je me suis fait mais incendier.
Ah oui.
Oh, bah toi, Jean, de toute façon, si tu viens enseigner ici, c'est parce que tu n'es pas capable de faire ta ferme. Tu as besoin d'un salaire extérieur. Je dis non, c'est aussi un choix. J'ai besoin de voir des jeunes. J'avais vécu plusieurs années en Afrique. J'avais besoin de ne pas rester 100% sur la ferme. Et les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça.
Jean Robin, en fait, vous avez fait ça, bien sûr, par goût, mais aussi parce que vous n'ayez pas le choix, quoi.
Non. 1992, réforme de la PAC.
Ouais.
Tout ce que je vendais était divisé par deux. Je vendais des œufs d'oie à 10 francs l'œuf, passé à 5 francs l'œuf. Le prix du lait de chèvre était divisé par deux. Le prix de la viande de mouton, mon père a 200 brebis, divisé par deux. La laine était devenue invendable. Tout était divisé par deux.
Alors quand vous avez imposé de prendre des chèvres.
Exactement. Tout était devenu invendable. Donc qu'est-ce qu'on fait? J'étais endetté, je donnais 3 200 € par mois à la banque.
Oh.
Donc on s'est dit avec ma femme, on va lancer une activité d'agrotourisme parce qu'on aime ça, on aime accueillir les gens. D'où nous vient cet amour d'accueillir les gens? De nos parents.
Ouais.
Papa, maman ont toujours accueilli énormément de gens ici. Donc on a fait ce que tu vois là devant toi,
ouais.
Ces bungalows qu'on a été chercher en bois, ils viennent de Lyon, les bungalows là-bas viennent de Vendée. On a construit une piscine avec une ancienne serre à maraîchage. On a fait chaque plateforme, on a planté chaque arbre.
Arbre, vous les avez plantés?
Il y en a 200 sur le site. Wow. On les a tous plantés un par un. C'était des petits chênes, ils étaient hauts comme ça, regarde-moi comme ils sont beaux.
Ah, ouais.
Et quand le Crédit Agricole, et je le remercie encore, a accepté de nous financer, il nous avait dit, c'est quitte ou double, si vous ne louez pas les bungalows tout de suite, dès la première année, vous êtes en faillite. On n'y croit pas techniquement, parce que nous, tant qu'on n'a pas des kilos de viande, des hectolitres de lait et des hectares de blé, on ne sait pas calculer.
Ouais,
il m'a dit ça carrément, l'ancien directeur de la Caisse régionale du Crédit Agricole.
Il était un mec bien, hein, parce
Il s'appelait Monsieur Sozo, un gars très sympa. Il a fait le tour de l'étang de la barre. Il est revenu prendre le café à la maison et il a dit, écoutez, je vais vous financer parce que chez vous, il y a un esprit. Il y a quelque chose qui me touche, qui fait que ça me fait vibrer et je pense qu'il y a une carte à jouer. On y va. Et vous savez quoi? Pour une fois, cette caisse-là, locale, a accepté de nous suivre dans un projet totalement hors norme.
Voilà. Ah ouais. Vous en avez combien, là?
2000. Mais bon, ça, à partir de Pâques, c'est entièrement vide. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire.
Hein. Ouais, c'est sûr, hein. Le problème, c'est qu'il faut l'équiper.
Comment ça?
Ça va pas être facile à amortir sur la moitié de l'année. Vous auriez intérêt à voir plus grand. Faire les deux en même temps. Poulet et chevaux. Puis vous aurez un beau bâtiment tout neuf.
Puis je vous ai déjà dit, vous avez droit à une aide de l'État à la modernisation, à hauteur de un tiers d'investissement.
Alors en plus, on voit pas très bien comment on change de modèle, parce que on parle d'agroécologie, on peut parler d'agroforesterie, etc. Mais à partir du moment où les financements sont pointés vers l'hyperproductivité, je comprends aussi qu'un agriculteur n'ait pas tellement envie de bouger, quoi.
Bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, je ne jette pas la pierre à tous ces, ces agriculteurs qui sont retrouvés vraiment embarqués dans cette histoire absolument dingue. Mais tant que les incitations financières, comme les subventions européennes de l'agriculture, de la PAC, encouragent ces comportements écocidaires, j'allais dire, parce que finalement, c'est une agriculture qui tue la biodiversité, qui pollue les sols, l'eau, enfin, etc., qui rend les paysans malades, etc., et y compris les mangeurs. Eh bien, tant qu'on aura des incitations financières qui font que la subvention, elle est perçue en fonction du nombre d'hectares, quel que soit ce que tu fais dessus, évidemment qu'on ne change pas comme ça, parce qu'il y a un énorme problème, quand même, c'est la dette des agriculteurs.
Ouais.
Si un jour, on avait un ministère de l'Agriculture qui véritablement dit ça y est, ok, on change de modèle, ça sera meilleur pour le climat, ça sera meilleur pour la biodiversité, ça sera meilleur pour la santé des paysans et des consommateurs. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant.
Oui, ouais.
Eh bien, s'il y avait cette volonté politique, il faudrait quand même traiter en priorité la question de la dette. Comment on fait? Tous ceux qui sont endettés jusque-là, vous savez qu'il y a un agriculteur qui suicide tous les deux jours. C'est énorme, quoi.
Donc, le problème de la dette, et puis nous marchons sur un sol. Autrement dit, il y a le foncier.
Oui, bien sûr, l'accès au foncier, ça, c'est un vrai problème. Quoi, parce que c'est ces énormes fermes-là qui font parfois 1000, 2000 hectares. Comment on fait pour que des jeunes s'installent? Il y a un vrai problème.
Et ça devient d'ailleurs maintenant un produit spéculatif, le sol.
Oui, bien évidemment. Alors, il y a des mouvements qui essaient de contrer ça, comme Terre de Liens, tout ça, mais ça reste encore. C'est pas suffisant. Il faut une vraie politique pour dire stop, l'agrandissement c'est fini, malheureusement on n'en prend pas le chemin, hein. Et il faut favoriser l'installation de jeunes qui n'ont pas la perspective de quand tu commences ce métier, si tu rentres dans le moule, t'es endetté jusqu'à la fin de tes jours, c'est pas possible, quoi. C'est pour ça qu'ils ont vraiment un problème pour trouver des jeunes qui veulent s'installer dans ce modèle-là. Et puis, il faut évidemment soutenir la production d'aliments bio, locaux, distribués en circuit court, enfin, etc. Et ça marche, parce que moi, j'ai vu partout des paysans qui sont lancés là-dedans. Eh bien, c'est eux qui ont les meilleurs résultats d'exploitation. Ça marche.
Marie-Monique, Regardez cette promesse là, notre prunier.
Ça y est, c'est les premiers bourgeons qui apparaissent. C'est le printemps qui arrive.
Tu vois, joli
prunier. Et les pruniers, c'est beau, hein. C'est comme les cerisiers en fait.
Marie-Monique, qu'est-ce qui vous rend heureuse ici ?
Moi, pour éviter d'être trop déprimée, j'ai fait une formation de pleine conscience. En fait,
oui.
Pour m'extraire du stress que ça pouvait me provoquer. Ça, là, par exemple, là, on en est là, tu te fermes les yeux. Écoutons.
Déjà 4, 5, 6 oiseaux différents.
Voilà. Là, bientôt vont arriver les grenouilles. Donc, on se reconnecte au vivant pour mieux le protéger. Et c'est bon pour le moral. Et du coup, ben, on n'est plus dépressif. Parce qu'il faut bien savoir, ceux qui nous écoutent, c'est normal d'avoir des moments de dépression quand on a compris tout ça. C'est complètement normal, parce que c'est terrible. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ?
On n'est pas obligé de sombrer.
On n'est pas obligé de sombrer. Voilà. Après, il faut se rapprocher des autres aussi. C'est très important de faire des choses collectivement.
C'est pas mal. Le ensemble, c'est quand même pas mal. Voilà. À très bientôt. Merci Marie-Monique Robin. À bientôt.
Merci Denis. Bon retour dans la capitale.
Oui. Ouais. Et je vous renvoie donc aussi à ces deux ouvrages, Vive les microbes à la découverte et Arte Édition, et puis Ces animaux qui nous protègent, avec les illustrations de Valentine Plessis, aux éditions de la Rue de l'Échiquier. On y reviendra parce qu'on parlera du One Health aussi de nouveau. Merci à Maxime Goudard qui a mixé cette émission, à Camille Blanès, à Juliette Gou qui l'a réalisé, et Thierry Dupin qui a choisi les disques de la semaine prochaine. Ronsard et la nature. Ah oui, oui, on va aussi aller dans le centre de la France. On va parler de lui. Bon, il n'y avait pas de pesticides, mais enfin, on mourait beaucoup plus jeune. Vous pouvez nous réécouter donc la nuit, ça c'est une rediffusion. Les podcasts, eh bien abonnez-vous aux podcasts de CO2 Mon Amour et des autres. Et puis on se retrouve aussi sur Instagram, sur LinkedIn et sur Blue Sky.